comme vous le savez, Catherine, une fois par an, on parle de sport sur France Culture. Eh bien, c'est aujourd'hui, ce vendredi, et c'est en compagnie de Jacques Vendroux. Bonjour Jacques Vendroux, vous êtes directeur des sports de Radio France. Vous présentez chaque dimanche sur France Bleu de 19h30 à 20h Stade Bleu. Vous avez notamment publié Amoureux Foot. Alors, je vais vous présenter, je sais que c'est assez cocasse de vous présenter Jacques Vendroux, puisque la plupart des auditeurs vous connaissent, mais enfin, je pourrais dire que vous êtes au sport sur Radio France que Zidane est au foot, sauf que vous n'avez jamais donné de coup de tête, peut-être à la machine à café. Je pourrais dire aussi que vous êtes le Greg Lemon du micro, mais ça signifierait que vous ne buvez pas que du lait. Je pourrais dire que vous êtes au foot ce qu'Habermas est pour Hegel. Vous savez qu'on est sur France Culture, je suis obligé de faire ce genre de comparaison. Vous êtes à la fois un passeur, mais aussi un théoricien et un praticien de la communication sportive. Et on va vous écouter dans l'une de vos premières œuvres sur Radio France.
Les sports, Jacques Vendroux.
Oui, nous allons commencer d'abord par le rallye Londres-Mexico, le rallye le plus dur du monde. Mais malheureusement, elles sont très mauvaises pour les couleurs françaises. On aurait saboté les DS21 de Trotman et Nederet pendant la traversée de Lisbonne à Rio. Des dégâts, c'est évidemment très important. La DS de Trotman a son système hydraulique de suspension complètement inutilisable et c'est avec une réparation de fortune qu'elle a pu repartir. Football, maintenant, les demi-finales de la Coupe de France. Tout d'abord, à Valenciennes, Nantes affrontera le club nordiste, le mal classé du championnat. On s'attend à un réveil des nordistes qui veulent sauver leur saison en se qualifiant pour la finale. Quant à Nantes, leur objectif est la Coupe de France, ce n'est pas nouveau. Les Gondé, les Blanchet, Larsen et Michel s'y emploieront. Deuxième rencontre, Rennes contre Saint-Étienne. Après la remontée étonnante du Stade Rennais, ils étaient encore 3 mois lanterne rouge de la première division. On se demande si les Bretons, après avoir sauvé leur maintien en division 1, ne veulent pas finir en beauté. Quant à Saint-Étienne, ils sont champions de France. C'est le doublé. Il veut être la meilleure équipe de France et je crois qu'ils le sont.
L'une des premières prestations de Jacques Vendroux, de vous, Jacques Vendroux, votre réaction, vous vous souvenez ?
Oui, je m'en souviens à peu près. Enfin, je veux dire, ce serait mentir si je vous disais que c'était tel jour à telle heure. Je crois que c'était un journal qui s'appelait le Journal des Sports sur France Inter. Et puis un jour, j'ai dû commencer. Et donc, ça fait partie en tous les cas de mes premiers débuts à France Inter.
C'était le 9 mai 1970.
Oui, parce qu'avant, j'étais à la télévision. J'avais débuté à la télévision en 1966 avec Raymond Marciac et la grande récompense des jeunes, c'était de faire ce qu'on appelle le journal de 23 heures à la télévision, le week-end, le samedi soir et le dimanche soir pour donner les résultats sportifs. Et puis après, je suis passé à la radio parce qu'à l'époque, c'était l'ORTF. Et l'ORTF, eh bien, on en parle beaucoup en ce moment.
Vous dites à l'époque, on ne sait pas si
mais
ça
oui,
va
non,
pas
mais revenir. À l'époque, en tous les cas, dans ces années-là, c'était l'ORTF. Et l'ORTF, eh bien, regroupait la seule et unique chaîne de télévision et la radio, qui était France Inter.
Le lien entre la radio et le sport, Jacques ?
Le sport a été extrêmement important pour la radio. Je rappelle que la radio, et notamment France Inter, avec dans les années 40, etc., 45, a été le détonateur, de tous les grands événements sportifs, avec des grandes voix comme Georges Briquet, comme André Bibal, qui sont des personnages qui nous ont appris notre métier. Mais la radio a été le premier grand média à s'intéresser au sport. Exemple, France Inter a été la première radio, à créer ce qu'on appelle le multiplex football, qui était sur France Inter. Nous avons été la première radio à suivre en intégralité le Tour de France. C'est vrai que la radio, bien avant la télévision, a été le précurseur de toutes les grandes retransmissions sportives. Pour vous donner un exemple, qui est très récent, là actuellement va se terminer les Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud. Nous avons une délégation de la direction des sports du groupe Radio France de 5 journalistes et nous sommes omniprésents sur France Culture, sur France Inter et également sur France Info. Parce que quels que soient les présidents, quels que soient nos patrons d'époque, il y a toujours eu une priorité sur le sport et notamment récemment avec Mathieu Gallet.
Les Jeux Olympiques de Corée s'achèvent dimanche prochain. Quel bilan dressez-vous de ces Jeux ? Quel bilan dressez-vous sur le plan sportif ?
Bah 15 médailles. Déjà 15 médailles, ce qui est énorme. C'est-à-dire, vous avez obtenu 15 médailles d'or, ce qui est vraiment incroyable en ce qui concerne, les Jeux Olympiques.
En quoi ?
Mais alors justement, c'est là où il y a beaucoup d'ambiguïté. C'est que, dans les grandes compétitions excepté Fourcade, où là on était attendu.
Il va falloir que vous disiez qui sont ces gens, parce que je suis sûr que la plupart des auditeurs sont comme moi. Fourcade, c'est un nom qu'on lit dans les journaux, il faut que vous nous présentiez ces sportifs.
Non, mais c'est le roi du biathlon, enfin je veux dire, c'est un incroyable champion, je veux dire, il a battu le record historique de Jean-Claude Killy. Vous avez l'avènement actuellement d'un certain nombre de sports, alors on parle de la descente, on parle du slalom, on parle du patinage artistique.
Killy faisait du biathlon ?
Non, mais Killy était l'un des derniers grands champions à avoir gagné 3 médailles d'or dans des Jeux Olympiques. Et là, il a été battu par Fourcade, qui en a quand même obtenu 5, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, je veux dire, ces Jeux de la Corée du Sud, et même un peu Sochi, il y a 4 ans, eh bien, ce sont des Jeux qui ont été, qui nous ont montré des sports qui n'étaient pas très connus, à commencer par le curling, à commencer par toutes ces compétitions qui sont a priori un petit peu compliquées à expliquer, sauf que ils ont tous un dénominateur commun, c'est ce qu'on appelle le ski acrobatique. Et donc ils sont devenus très spectaculaires, très intéressants, et ils intéressent, je veux dire, les jeunes, et c'est ça qui est important.
Justement, on va écouter, on va dire, une virgule, parce que ce n'est pas un reportage sur le curling. Vous allez nous expliquer ce qu'est le curling, ce sport qui a été véritablement promu au cours de ces Jeux Olympiques coréens. Ça, c'est l'équipe féminine sud-coréenne de curling qui a été surnommée la Kim Team et qui est devenue véritablement un phénomène de mode sur internet. Qu'est-ce que le curling, Jacques?
Vous savez pourquoi la Kim Team? Parce que toutes les filles s'appellent Kim. Donc c'est passé à la Kim Team. Et donc le curling, c'est il faut lancer un genre de pavé entre guillemets, si on peut parler comme ça pour essayer de simplifier l'explication, le plus près possible d'une sorte de cochonnet. Et donc, c'est un entraînement incroyable parce que il faut lancer, je veux dire, ce curling sur la glace le plus précisément possible pour arriver dans un rond. Et on s'aperçoit que dans toute l'Asie et surtout aux États-Unis, c'est un sport majeur. C'est un sport incroyable. Il y a des stades de curling où vous avez jusqu'à 20 ou 30 000 personnes qui viennent assister à des compétitions qui durent pas 90 minutes. Ou 120 minutes, comme un match de football avec prolongation, ou 80 minutes pendant un match de rugby, ce sont des compétitions qui durent entre 6 heures et 7 heures. C'est immensément long, mais il y a une passion incroyable. Ce que je me permettais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est l'avènement de nouveaux sports dont on a beaucoup parlé, à l'image des skis acrobatiques, etc., du
curling.
Mais alors,
tout ça, on comprend, parce que le ski acrobatique, c'est assez beau à regarder.
Mais il faut une drôle de condition physique, hein. Attention. Hein.
J'ai pas parlé d'en faire. Pour le regarder, il faut une condition physique.
Non, mais pour le regarder, c'est passionnant, c'est très spectaculaire. C'est des sportifs de très très haut niveau. C'est des gens qui sont, préparés d'une manière, mais incroyable, parce que vous parlez de toutes ces compétitions qui sortent un petit peu de l'ordinaire en ce qui concerne le ski. Je veux dire, ils se mettent en danger. Ce sont des sportifs de très haut niveau ou sportifs de très haut niveau qui se mettent en danger à chaque compétition. Comme la descente. La descente, c'est l'un des sports les plus dangereux au monde. Vous faites des descentes qui vont à une vitesse, mais incroyable. Et en ce qui concerne le ski acrobatique, rien n'est limpide. À partir du moment où c'est de l'acrobatie, vous faites des gestes qui sont pas forcément toujours naturels. Vous pouvez mal tomber, vous pouvez avoir des conséquences extrêmement graves. Mais ce qui est bien dans ces derniers jeux, soit Sochi et les jeux de Corée du Sud, on a des nouveaux sports qui passionnent les gens, qui passionnent les jeunes.
Le biathlon.
Non, mais le biathlon, c'est comme le décathlon. Vous voyez, c'est une compétition où vous avez tout. Vous avez du tir, vous avez du ski, vous avez du sprint en ski, c'est l'un des sports. Le biathlon est certainement l'un des sports les plus compliqués et les plus complets.
Pourquoi?
Parce que vous faites un certain nombre de disciplines différentes. C'est-à-dire que vous faites du ski. Déjà, faire du ski, c'est compliqué. Faire du ski très vite, c'est encore plus compliqué. Et en plus, vous devez vous arrêter. J'essaye de simplifier l'explication. Vous devez vous arrêter pour tirer dans une cible. Donc, vous êtes en plein effort physique. Vous devez retrouver votre concentration. Vous devez retrouver votre calme. et vous devez essayer de viser dans une cible qui vous permet bien sûr de marquer des points et d'être champion olympique comme l'a fait Fourcade.
Mais alors là aussi c'est une impression où on en a particulièrement parlé durant ces Jeux. Là, on en a parlé parce que les Français se sont distingués, mais on en a parlé aussi à l'étranger du biathlon, Jacques Vendroux.
Parce que le biathlon est un nouveau sport, voilà. C'est-à-dire que les gens, et ce qui est important notamment en France, Fourcade est devenu une star planétaire. C'est-à-dire que les succès de Fourcade ont été transférés, évidemment, dans tous les pays nordiques, dans tous les pays qui sont passionnés par les Jeux Olympiques d'hiver. Et je répète, je veux dire, on parle de l'équipe de France de football, on parle du rugby, on parle du handball, on a tous tendance à aller vers les sports collectifs un peu spectaculaires. Là, c'est l'année où jamais on le met en valeur parce que c'est un champion historique.
Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que le football, le rugby sont des sports que beaucoup de gens pratiquent. Ce sont des sports faciles à pratiquer. Le curling, le biathlon, ce ne sont pas des sports que l'on peut pratiquer aisément. Il faut du matériel, il faut un dispositif particulier. C'est étonnant que ces sports-là, qui sont des sports relativement rares, pas faciles à pratiquer, deviennent aujourd'hui aussi populaires, Jacques Vendroux.
Moi, je me suis longuement posé la question. Je crois que quelque part, je veux dire, que ce soit les Français ou les étrangers, je dis pas qu'ils en ont marre du football, je dis pas qu'ils en ont marre du rugby ou du handball qui obtient des résultats merveilleux. Je crois qu'ils ont envie de voir d'autres sports qui sortent de l'ordinaire et qui font rêver. Parce que quand vous regardez une compétition de biathlon avec Fourcade, je veux dire, vous êtes scotché. Je veux dire, vous êtes scotché par l'intensité, par la concentration, par la condition physique. Je veux dire, ça apporte des portes de sortie. Je veux dire, un certain nombre d'amateurs de sport qui étaient tranquillement devant un match de football, ça ne changera pas leurs habitudes. Mais là, ils ont découvert d'autres compétitions grâce aux Jeux Olympiques d'hiver. Et d'ailleurs, les Jeux Olympiques d'hiver ont plus en plus de succès par rapport aux Jeux Olympiques d'été.
Justement, ça, c'est là aussi quelque chose qu'il faut expliquer, qui mérite d'être expliqué, Jacques. Pourquoi le fait que ces sports soient aujourd'hui de plus en plus populaires, y compris par rapport aux sports aux Jeux Olympiques d'été?
Parce que les Français, enfin je parle en tous les cas du public français, a besoin de sortir un petit peu de son ordinaire et de ses habitudes, je veux dire franco-française, un peu franchouillarde. C'est-à-dire, on est supporter de l'équipe de France de football, qui va aller en Russie, qui va disputer la Coupe du Monde. Elle est supportrice également la France de l'équipe de France de rugby, de l'équipe de France de handball, de tous les sports collectifs. Elle est surtout, la France, supportrice du Tour de France, qui restera, quoi qu'il arrive, la compétition la plus populaire et la plus invraisemblable qui existe au monde, parce que c'est une compétition qui est dans toute la France et qui est gratuite. Donc vous avez des gens qui partent avec leur caravane, qui vont s'installer pendant 2 jours, je veux dire, à l'Izoard ou au Tourmalet, pour voir simplement passer pendant 1 millième de seconde ce qu'on appelle le peloton. Donc les Français, maintenant, que ce soit les Jeux Olympiques d'été, que ce soit les Jeux Olympiques d'hiver, eh bien, découvrent d'autres sports et s'aperçoivent que, on parlait du biathlon, ils s'aperçoivent que c'est un sport, je veux dire, qui est passionnant, comme les gens ont découvert le footing à une certaine époque, ont découvert le vélo, je veux dire, à titre personnel, ne serait-ce que tourner au Bois de Boulogne, quand vous allez le samedi matin, le dimanche matin dans le Bois de Boulogne, vous avez des milliers de personnes qui tournent avec leur vélo, avec leurs équipements, je veux dire, ils sont passés à autre chose. Ils vont plus jouer au football, bêtement, je veux dire, dans un terrain de 4x4.
Et puis alors, ces jeux ont été également marqués par des innovations technologiques. Alors toujours sur le curling, j'ai découvert, oui, il y a d'ailleurs eu un très long article dans le New York Times à ce sujet, qu'il y avait désormais des balais intelligents. Alors vous l'avez dit, Jacques, le curling, ça se joue avec une sorte de balai. Et alors maintenant, on a réussi à perfectionner le balai. Il y a aussi une smart suit, c'est-à-dire une combinaison intelligente pour les joueurs de curling. Ça n'a pas l'air de vous convaincre.
Non, mais le curling, j'ai jamais considéré, très honnêtement, je vais peut-être me fâcher avec la Fédération française de curling.
Qui ne doit pas aujourd'hui être trop nombreuse. Hein.
Non, ils ne sont pas très nombreux.
Vous n'allez pas vous fâcher.
Non, mais vous me fâchez. Je veux dire, moi, je trouve que, franchement, le curling, bon, ça nous, c'est plutôt marrant. je veux dire, vous voyez le sportif ou la sportive lancer ce qu'on appelle
un palais,
enfin ça ressemble à un palais, pour arriver à un cochonnet au milieu, je veux dire, d'un rond,
vous
etc.
Vous savez qu'il y a des sports comme ça en France, hein, pour atteindre le cochonnet. Hein,
oui,
qui soit assez populaire,
non,
vous allez vous fâcher avec beaucoup de gens.
Attendez. Ne comparons pas, je veux dire, le curling et les boules. Les boules, c'est un sport, mais extrêmement populaire, mais dans toute la France.
Bah
je veux
oui,
dire,
le
curling, on peut jouer au curling en plein hiver, c'est tout, hein, dans sa station. Je veux dire, les boules, on peut jouer dans le monde entier. Les boules, c'est comme le foot. Vous savez, les boules et le football ont un point commun. On peut jouer au football partout. On a un ballon, on peut jouer dans la rue, on peut jouer dans son appartement, on peut jouer, je veux dire, dans n'importe quel endroit au monde, au football, et c'est pour ça que le football est sans doute le sport et restera le plus populaire. Eh bien, les boules, c'est exactement la même chose. Donc, ne faisons pas de comparaison avec les boules. Le curling, je suis pas convaincu. Bon, je suis pas bouleversé par le curling. Voilà, je vous le dis franchement.
Et puis alors, je vais vous faire du mal, Jacques, oui. Mais donc il y a eu des innovations technologiques et pour le curling. Il y a aussi des permanences. Alors le dopage, il y a par exemple eu un curleur russe qui a été contrôlé positif. Donc sont encore
non,
des
mais
jeux
comment
le dopage existe.
Non mais comment peut-on se doper au curling? Enfin, je veux dire, c'est
non,
mais c'est,
non,
mais c'est vrai, mais c'est vrai,
mais
c'est vrai. Mais je veux dire, le curling est le sport le moins fatigant au monde. Enfin, je veux dire,
vous avez déjà joué au curling?
Mais non, mais j'ai essayé. Là, vous lancez un truc qui arrive à un endroit. Je veux dire, vous devez être.
Il faut frotter la glace très fort avec le balai.
Non, ce qui est plus dur, c'est les gens qui sont autour avec leur balai pour essayer de nettoyer la glace pour que ça aille très très vite. Bon, mais c'est eux les champions. C'est pas le lanceur. Vous savez, c'est deux choses différentes. Vous avez le lanceur et vous avez celui qui a le balai qui nettoie, je veux dire, ce qu'on appelle le curling, enfin, ce qu'on appelle
la glace.
Voilà, pour que ça aille de plus en plus vite. C'est ça. Alors, maintenant, j'ai appris l'autre fois qu'il y avait un Russe qui s'était dopé au curling, mais je veux dire, il y a un problème quand même.
Bon, après avoir lancé le palais, moi je vais lancer le journal. On se retrouve aux environs de 8h20. Jacques Vendroux, on continuera à évoquer les Jeux Olympiques. Vous serez rejoint par Marie-Cécile Nave, qui est politologue. Et cette fois-ci, on va voir comment les Jeux Olympiques ont eu aujourd'hui une importance sur le plan géopolitique. Et puis s'interroger aussi sur ces JO qui devraient venir en France. Hein, c'est ça, Jacques Vendroux.
2024.
Voilà, on va en reparler. 8h sur France Culture. Bienvenue si vous nous rejoignez.